La réception de Dame Eliabel.
Le lendemain, dès l'aube, il semblait que la fièvre qui agitait le comptoir de Naufle eût gagné le manoir de Cresset. Dame Eliabel bousculait sa servante et 6 serres du domaine avaient été requis en corvée pour la journée. On lavait les dalles à grande eau, on dressait la table, on entassait les bûches de part et d'autre de la cheminée. L'écurie était garnie de paille fraîche, la cour balayée. Dans la cuisine, un marcassin et un mouton entier tournaient déjà sur leurs broches. Les pâtés cuisaient au four, et le bruit se répandait dans le hameau que les Cressets attendaient un envoyé du roi. L'air était froid, léger, traversé d'un pâle soleil de janvier qui égayait les branchages nus et posait dans les flaques des chemins quelques gouttes de lumière. Guccio arriva en fin de matinée, couvert d'un manteau doublé de fourrure, coiffé d'un large chaperon de drap vert dont la crête lui retombait sur l'épaule, et monté sur un beau cheval bai, bien nourri et finement harnaché. Il était accompagné d'un valet et sentait d'une lieue l'homme riche. Il trouva la châtelaine et ses 2 fils en vêtements de fête. L'accueil qu'on lui fit, l'empressement des serviteurs, les embrassades de Dame Eliabel, l'apprêt du couvert et de la maison lui parurent signe d'excellent augure. Marie d'Évidence avait parlé à sa famille. On savait pourquoi il venait et on le traitait déjà comme le fiancé. Pierre de Cresset toutefois montrait un peu de gêne.
« Mes bons amis, s'écria Guccio, que j'ai donc de joie à vous revoir. Mais il ne fallait pas vous mettre tellement frais. Traitez-moi tout juste, comme si j'étais de votre famille. »
Le mot déplut à Jean, qui échangea un regard avec sa mère. Guccio avait un peu changé d'aspect. De son accident, il lui restait une légère raideur dans la jambe droite, qui n'était pas sans donner quelque élégance hautaine à sa démarche. Les semaines d'immobilité sur un lit d'hôpital avaient favorisé une dernière poussée de croissance. Ses traits s'étaient accusés, son visage offrait une expression plus sérieuse, mûrie. L'adolescence chez lui s'effaçait pour lui laisser prendre son apparence d'homme. Sans avoir rien perdu de son assurance d'antan, bien au contraire, il se donnait moins de mal pour en imposer à autrui. Il parlait avec moins d'accent et un peu plus de lenteur, mais toujours avec autant de gestes. Regardant les murs autour de lui comme si déjà il en était le maître, il demanda aux frères Cresset s'ils avaient l'intention d'effectuer quelques réparations sur leur manoir.
« J'ai vu en Italie, dit-il, certains plafonds à peinture qui seraient ici du meilleur effet. Et votre salle d'étuve, ne comptez-vous pas la rebâtir? On a fait aujourd'hui des petites qui ont beaucoup de commodités, et à mon avis, ceci est indispensable aux soins du corps pour les gens de qualité. »
Il fallait comprendre en sous-entendu « Je suis prête à payer tout cela, car c'est ainsi que j'aime à vivre. » Guccio avait également des idées sur le mobilier, sur les tapisseries à suspendre aux murailles pour les égayer. Il commençait à fort agacer Jean de Cresset, et Pierre lui-même estimait que c'était aller un peu vite en besogne que de parler aux débeautés de refaire déjà toute la maison. Guccio devisait ainsi de choses et d'autres depuis une demi-heure, et Marie n'était toujours pas apparue. « Peut-être, pensa-t-il, dois-je d'abord me déclarer. »
« Aurais-je le plaisir de voir Mademoiselle Marie ? Nous fait-elle compagnie pour dîner ?
Certes, certes, elle s'apprête. Elle descendra tout à l'heure, répondit Dame Eliabel. Vous allez la trouver bien différente. Elle est tout à son nouveau bonheur.
Guccio se leva, le cœur battant.
Vraiment ? S'écria-t-il. Oh, Dame Eliabel, quelle joie vous me causez !
Oui, et nous aussi, nous sommes bien joyeux de pouvoir nous louer de cette bonne nouvelle avec un ami tel que vous, notre cher mari et fiancé.
Elle marqua un temps.
Elle est fiancée à l'un de nos parents, le sire de Saint-Venant, un gentilhomme d'Artois de fort vieille noblesse, qui s'était pris d'elle et dont elle était prise.
Guccio demeura un instant comme dans le brouillard, incapable de parler, tripotant machinalement le reliquaire d'or que lui avait donné la reine Clémence et qui brillait sur son juste au corps, de 2 couleurs à la dernière mode italienne. Il entendit Jean de Cresset ouvrir une porte et appeler sa sœur. Faisant effort pour se reprendre, Guccio dit d'une voix qui lui sembla celle d'un autre
« Et quand les noces auront-elles lieu ?»«
Au premier jour de l'été, » répondit Dame Eliabel.
« Mais c'est tout juste comme si c'était fait, » précisa Jean de Cresset, « car les paroles sont échangées. »
Celle à qui Guccio dédiait ses pensées depuis tant de mois, dont il avait si souvent parlé à Clémence de Hongrie, à Bouville, à Ptolémée, et qui avait été, dans l'éloignement et la maladie, le centre de ses rêves, entra raide, distante, mais les yeux rouges. Elle souhaita du bout des lèvres la bienvenue à Guccio. Il se contraignit à la féliciter, et elle mit autant de dignité qu'elle put à recevoir ses compliments. Elle était tout près d'éclater en sanglots, mais réussit à se dominer, si bien que Guccio prit pour une froideur réelle ce qui n'était chez Marie que la crainte de se trahir et d'encourir les châtiments dont on l'avait menacé. Le repas trop copieux fut pénible. Dame Eliabelle, se délectant de sa propre perfidie, jouait la gaieté, obligeait son hôte à reprendre de chaque plat et ordonnait au serviteur de lui porter un nouveau quartier de mouton ou de marcassin sur sa tranche de pain.
« Avez-vous perdu l'appétit en vos longs voyages ? » s'écria-t-elle. « Allons, allons, messire Guccio, il faut se bien nourrir à votre âge. N'est-ce point de votre goût ? Servez-vous mieux de ce pâté ?»
Pas une fois Guccio ne put rencontrer le regard de Marie. « Elle ne paraît pas trop fière d'avoir renié la foi qu'elle m'avait jurée, pensait-il. N'ai-je donc échappé à la mort que pour recevoir pareil affront ? Ah, mes craintes n'étaient pas vaines quand je désespérais à l'Hôtel-Dieu de Marseille et ces absurdes lettres que je lui ai envoyées. Mais pourquoi m'avoir fait répondre par Ricardo qu'elle demeurait dans les mêmes pensées et qu'elle se languissait de m'attendre alors qu'elle s'engageait ailleurs ? Cela est traîtrise et je ne le pardonnerai jamais. Ah, le mauvais dîner que voilà ! Jamais je n'en ai goûté de pire.